un 24 décembre sur la Terre. Où êtes-vous en ce moment? Dans votre cuisine, dans votre salon, terminant votre lettre au Père Noël? Dans une voiture, avec des kilomètres d'embouteillage à éviter? Dans une chambre, emmitouflée dans une couette en coton bio, évidemment, pour être en forme ce soir? Où que vous soyez, régulièrement, presque machinalement, vous profitez d'avoir quelques minutes pour jeter un œil sur vos réseaux sociaux. Au détour de vos pérégrinations sur Instagram ou sur YouTube, vous avez peut-être déjà croisé leur visage, Max Bird, youtubeur scientifique, et Roxane Nonc, instagrammeuse plus ou moins apocalyptique. Avec eux, ce mardi, nous allons parler de l'influence des réseaux sociaux sur l'évolution des mentalités en matière d'environnement, comment et pourquoi les jeunes générations s'emparent de l'écologie. Ils répondront à toutes vos questions. Le standard est d'ores et déjà ouvert au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Dans la deuxième demi-heure de la Terre au carré, vos solutions pour la planète, à défaut de refaire entièrement le monde, j'aimerais bien mais ça prend un peu de temps, nous allons déjà tenter de le bâtir un poil différemment avec l'architecte Julien Chopin. Et puis en fin d'émission, vous ne verrez plus jamais les cafards de la même manière et encore moins les dindes. L'éthologue Fabienne Delfour étudie le comportement des animaux, elle a mis sous notre sapin un livre « Que pensent les dindes de Noël ?» Sans vouloir vous spoiler, il semblerait que l'on n'ait pas une idée très très précise de la réponse. Cette émission est réalisée par Céline Hila, avec à la technique Loïc Frapsos et Paul Percheron. Vous écoutez France Inter, bienvenue.
Élodie Font. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Max Bird.
Et bonjour.
640 000 abonnés au compteur de votre chaîne YouTube, une chaîne découverte, science et humour. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous la qualifiez.
Si, ça me colle bien.
Vous montez aussi régulièrement sur scène, l'Olympia en juin prochain pour votre encyclospectacle. Bonjour Roxane Nonc.
Bonjour.
Vous êtes instagrammeuse et vous partagez avec vos 20 000 abonnés des extraits choisis de rapports qui nous alertent sur la crise climatique, mais pas que. Vous écrivez aussi des fictions dans lesquelles vous mêlez prédictions scientifiques et inventions de votre part. Le nom du conte, Dear Lobbies, cher lobby. Exactement. Merci à tous les deux de pré-réveillonner avec nous ce 24 décembre. À chacun votre réseau de prédilection, YouTube, Instagram. Je pense que je passe autant de temps personnellement sur l'un et sur l'autre. Pourquoi avoir choisi ces supports tous les deux pour vous exprimer ? Roxane, peut-être pour commencer.
Instagram, en fait, pour moi, c'est le réseau qui est le plus utilisé par les millennials. Et en fait, pourquoi je suis arrivée sur Instagram, c'est parce que j'étais en master développement durable et il fallait que je fasse un stage. Et je me suis dit, je vais pas faire un stage comme tout le monde. Je vais essayer de créer quelque chose et d'analyser tout ce qui se passe sur ce réseau social.
Donc, être votre propre employeur.
En fait, je voulais que mon compte Instagram soit le laboratoire de recherche de mon mémoire que j'étais en train d'écrire. Et en fait, il s'est avéré que ça a tellement bien fonctionné que je n'ai pas terminé mon mémoire et que je me suis vraiment consacrée à 100% sur ce compte Instagram.
Donc ça s'est passé comme ça. Et pour YouTube, Max Bird ?
Moi, à la base, je faisais de la scène. J'avais déjà mon spectacle sur scène. Et comme tout le monde, je galérais. Parce que quand on n'a pas une exposition médiatique, c'est très difficile de faire vivre un spectacle. Donc j'avais le choix. Ouais, il faut avoir une exposition soit télé, soit radio, même soit Internet. Et voilà, YouTube, c'est la liberté totale qu'on a sur YouTube. C'est nous, on peut décider de tout, du montage, de chaque mot, de chaque virgule, de la durée de la vidéo, de à quel moment on le publie. Donc cette liberté m'a beaucoup séduit.
On va écouter d'ailleurs un extrait, Max Bird.
On a tous déjà entendu cette expression « avoir un appétit d'oiseau, manger comme un oiseau ». C'est vrai, ça ne mange pas beaucoup le bois d'oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Non. Un oiseau, en tout cas la majorité des espèces, mange entre 15% et 50% de son poids en nourriture par jour. Ah oui. Si les oiseaux bouffent beaucoup, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, ils volent. Tu voles, toi ? Non. Voilà. Tu voles pas. Pour avoir assez d'énergie pour voler et conserver leur chaleur, les oiseaux peuvent donc ingurgiter des quantités extraordinaires de nourriture avec un métabolisme très rapide. C'est-à-dire qu'ils mangent, ils prennent vite les nutriments et ils chient.
Une idée idées reçues parmi d'autres. Il y en a beaucoup.
Oui, il y en a beaucoup. Ouais.
Sur votre chaîne Max Bird, vous utilisez, Roxane, le texte, pas vraiment l'image, un petit peu en story. Les stories, ce sont les feuilletons que l'on peut retrouver sur Instagram, mais finalement assez peu. Et puis vous, évidemment, Max Bird, c'est évidemment l'image avec la vidéo. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon vous aujourd'hui, en tout cas pour sensibiliser comme vous le faites?
C'est de ça qu'on discutait avant l'émission. C'est très intéressant parce que effectivement, j'ai toujours considéré qu'il fallait justement mettre de la mise en scène, mettre de l'image pour intéresser les gens à certains sujets. Et on se rend compte que plus ça va, plus les gens ont besoin d'exactitude. Plus les gens, ils ont besoin de précision, et c'est de ça qu'on discutait tout à l'heure justement avec Roxane.
Moi, volontairement, je mets le moins de visuel possible. En fait, j'ai des textes qui sont noirs sur blanc. Pourquoi ? Parce que je pense que l'imaginaire est très important. Et plus on facilite le travail au cerveau, plus le cerveau est dans la passivité, moins il y a l'imaginaire qui travaille et moins on conscientise en fait. Donc moi, mes histoires sont là pour conscientiser. Si je rajoutais des effets, ça rendrait le cerveau plus passif. Là où moi, je veux plutôt de l'activité, en fait, pour que les personnes s'imaginent. Une histoire que j'écris, je vais en discuter, j'en discutais avec mon frère il y a quelques temps, de la même histoire, on l'avait tous les deux imaginée de manière totalement différente. Et c'est vraiment ça le but. Pour la conscientisation, j'ai besoin d'un matériel brut.
Un matériel brut. Mmh. Ça veut dire, Max Bird, que vous dites je sens qu'on a besoin d'exactitude. Ouais. Ça veut dire que vous faites très très attention, plus attention qu'avant à ce que vous dites
dans les
vidéos.
Je suis dans une phase énorme de remise en question à ce niveau-là. Parce que j'ai toujours fait de la vulgarisation, entre guillemets, de la vulgarisation légère. Le but du jeu étant plus d'être un éveilleur de curiosité qu'un fournisseur d'études méga fiable. Et plus ça va, plus je me rends compte que les sujets, alors là évidemment quand on parle de l'appétit d'oiseau, si je dis une connerie ou deux, c'est pas très grave, mais quand on commence à aborder d'autres sujets, c'est plus important. Et c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à écrire, parce que j'ai de moins en moins envie de faire des vannes, j'ai de moins en moins envie de raccourcir, j'ai de moins en moins envie de simplifier pour que ce soit plus intelligible et plus digeste. J'ai de plus en plus envie de balancer les études franco du collier.
Vous avez réveillé votre propre conscience écolo, finalement.
Oui, même sur l'écologie, je pense qu'en fait, les gens s'intéressent énormément à ces sujets, beaucoup plus qu'on voudrait nous le faire croire et qu'on peut le sentir quand on regarde les médias qui ont l'air de parler que du port du voile. En fait, il y a...
Non, pas que, regardez, on est un média.
Oui, bien sûr, mais je pense que on n'est pas à la hauteur de du questionnement des Français sur ça. Les recherches, je crois, sur Google qui ont bondi de 130% cette année, c'est que des recherches qui concernent le zéro déchet, l'environnement, la fonte de la biodiversité, le réchauffement climatique. C'est que des recherches là-dessus. Les gens ont besoin d'être sûrs. Ils ont besoin d'avoir plus de... Et donc c'est pour ça que, pour moi, j'ai l'impression qu'on va vers de moins en moins d'à peu près. Et donc j'aimerais participer moi aussi à cette... vers plus d'exactitude et moins de rigolade, peut-être.
Et vous avez l'impression que sur les réseaux, on s'adresse justement à ces gens qui vont taper dans Google quelque chose qui aura un lien avec l'environnement, ou on s'adresse à des gens qui n'y ont pas encore pensé?
Ça, c'est une bonne question. Et effectivement, ça remet un peu en question ce que je pensais là. C'est-à-dire, effectivement, il faut peut-être un petit peu de légèreté, d'inexactitude et d'à peu près de facilité pour les gens qui, eux, ne se sont jamais posé la question, on va dire.
Mais. Donc là, on vient de dire tout et son contraire.
Mais oui. Mais je pense quand même.
Il est en pleine remise en question.
Ouais, c'est pour ça. Tout ce que je dis n'a aucun sens parce que je suis actuellement en pleine dépression. Voilà. Il faut.
Remise en question.
Je pense qu'il faut, effectivement, apprendre à tout le monde à se poser des questions là-dessus et assez rapidement aussi les faire passer au stade de maintenant il faut être exact. L'à peu près en fait sur ces questions-là, j'ai peur que ce soit contre-productif.
Moi je pense que toutes les manières de communiquer sont complémentaires et utiles puisqu'en fait il y a tout type de public. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'avais quand même étudié Instagram et je m'étais dit bon allez je vais mettre quelques photos puisque ce sont les photos qui marchent bien sur Instagram. Et en fait je vais enrober, j'avais créé une typologie de contenu, d'attractivité des contenus. Et en fait j'essayais d'enrober un peu mes contenus bruts dans des photos, dans des choses colorées, etc. Et en fait je me rendais compte qu'une photo de mode marchait 4 fois moins bien qu'un extrait de la déclaration de Stockholm. Et là je me suis rendu compte qu'en fait les infos brutes à la source fonctionnait super bien. Et là, les gens se disaient, mais attendez, on a vraiment dit ça en 1972? Bah oui, en fait, on disait exactement la même chose il y a 50 ans. Et rien n'a bougé. Et là, les gens commençaient à réaliser, en fait, ce qui était en train de se passer, la gravité de la situation. Et je me suis rendu compte que ça marchait. Les extraits du communiqué de presse du GIEC, les extraits du sommet de la Terre.
Et pourtant, Roxane, donc, on va pas se mentir. C'est vrai que, parfois, moi, j'ai envie de me désabonner de votre compte parce que vous m'angoissez, en fait.
Ouais, je sais. Mais c'est fait pour, en fait.
Ah bah
j'ai
merci.
Des gens qui m'ont... non, mon compte est là pour susciter la curiosité, pour déranger. Mais en même temps, la réalité est dérangeante. Donc, c'est pour ça que ça existe. J'ai des gens qui reviennent, qui m'envoient des messages, qui me disent « Je me suis désabonnée, mais tu me manquais. Donc, je suis revenue. Mais c'est juste parce que tu me déranges. » Et moi, j'écris pas des histoires juste pour écrire des histoires. J'écris des histoires, en fait, pour faire un travail préliminaire sur le cerveau, pour donner aux gens envie d'aller voir des sources qui sont indigestes. En fait, c'est un petit peu du nudge marketing. Donc, je suscite...
Du nudge marketing.
C'est un peu la... ouais,
ça veut dire quoi?
Le nudge, en fait,
appâté,
c'est
conditionné.
le nudge, en fait, c'est une technique qui est utilisée dans le commerce, dans la publicité, etc. C'est pour faire aller les gens d'un point A à un point B sans qu'ils se rendent compte. Et généralement, en fait, on supprime le lieu de délibération. Et c'est ça qui est assez dangereux dans le nudge. J'utilise cette même technique, sauf que moi, je l'utilise pour que les gens aillent d'un point A à un point B, qui est le lieu de délibération. Donc en fait, j'amène les gens à des sources et à aucun moment je leur dis faut penser comme ça ou comme si. Je leur dis voilà les sources, débrouillez-vous. Mon histoire, je vous pose toujours la question de savoir si c'est de la fiction ou de la réalité probable, mais je vous donne jamais la réponse. Vous avez les sources et vous décidez.
Donc c'est devenu du marketing finalement, l'écologie. C'est... Mais on va continuer à en parler avec vous tous les deux. Vos témoignages, vos réactions, on les attend évidemment au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Nos invités sont Max Bird et Roxane Nonc ce mardi.
France Inter. La Terre au carré.
Vous restez avec moi dans ce studio. Nouvelle diffusion de Camille Passauver, Camille Cronier, qui s'est rendue à l'université d'été de l'écologie intégrale l'été dernier et qui le racontait à Mathieu Vidard. Me voilà partie pour l'Essonne dans une abbaye au beau milieu d'une forêt à 40 minutes à pied du moindre transport en commun. J'y suis donc allée en voiture, fouettez-moi. Mais je précise quand même que le parking était plein. 150 personnes présentes en train de faire des ateliers dans le jardin et moi en train de leur poser une question simple, enfin a priori.
C'est quoi la différence avec l'écologie tout court en fait?
Ah bah, l'écologie ça, c'est limité et intégrale c'est toute l'intégralité qui peut regrouper... l'écologie intégrale.
Voilà, bon, j'ai fait un deuxième essai avec un monsieur qui tendait l'oreille juste à côté.
Bonjour.
Bonjour.
J'étais intriguée par le terme d'écologie intégrale, je ne sais pas du tout ce que c'est.
J'ai pas encore le truc vraiment en tête, c'est que il faut prendre en compte tout. Ah, on se cherche encore, hein, quand même, on y va gentiment.
Alors, en attendant de comprendre, et on va comprendre, je vous dis, sachez quand même que certains participants avaient des discussions relativement accessibles.
Et la vaisselle, ça consomme beaucoup plus d'eau que...
Tu peux faire la vaisselle à la main.
Oui, moi, je l'ai calculé.
Ça dépend comment on fait couler le robinet.
Ouais, c'est un vrai débat, ne vous moquez pas, la réponse n'est pas évidente. Enfin, on va pas se disperser. L'écologie intégrale, c'est en fait beaucoup moins terre-à-terre que ça.
Elle est intégrale dans le sens où je l'intègre aussi bien l'esprit, le corps. Donc l'homme est un peu au centre de toute cette réflexion, y compris avec le créateur, puisqu'on intègre aussi la dimension du créateur.
Ah voilà, on y arrive, je vois les têtes qui font. Ah bah oui, l'écologie intégrale, c'est un terme en fait qui a été utilisé par le pape François en juillet 2015, la première fois, dans une encyclique, c'est pas rien, avec cette idée que tout est lié, l'humain fait partie de la création donc, et doit être remis au centre ou au sommet, ce que les écologistes classiques ne feraient pas suffisamment.
Pour des écologistes, tout est un petit peu équivalent. L'homme est un animal parmi d'autres.
Les vrais écologistes s'occupent trop des sols et des petits oiseaux.
Oui, la nature, ça va. Hein. Donc ne les appelez surtout pas verts ou écolos.
Je ne suis pas écologique, je ne suis pas vert, je suis terrestre, tout simplement.
Terrestre.
Je suis terrestre.
Voilà, terrestre, option 1.
Mais vous-même, hein.
Il y a aussi une option 2.
Plus qu'écologiste, bon père de famille et qui pense à l'avenir de mes enfants, quoi.
Vous avez des enfants,
non?
Non, pas d'enfants non plus, mais alors rien à voir cette fois avec les défenseurs de la planète qui ont décidé pour certains de ne pas faire d'enfants pour la préserver. Ici, chez nos amis les terrestres, donc, on n'a pas du tout le même discours.
Vous n'êtes pas pour ne plus faire d'enfants, pour les gens qui disent « moi je ne fais pas d'enfants pour sauver la planète ».
Non, parce que je pense qu'il ne s'agit pas... Il faut que notre écologie soit joyeuse, c'est-à-dire pas limitative, il y a déjà suffisamment de contraintes.
L'écologie joyeuse, vous avez entendu, c'est un prêtre qui parlait. Entendu également, toujours en rapport avec le corps, un petit parallèle avec les OGM.
Comment est-ce que vous pourriez expliquer qu'on est contre les OGM parce qu'on ne veut pas transformer la nature, les plantes, et pourquoi est-ce qu'on pourrait demain avoir un rapport à l'humain qui marchandisent par exemple le corps des femmes dans le cas de la GPA.
Ça n'a rien à voir avec l'écologie, avec l'écologie,
à l'écologie intégrale, si, justement. Parce qu'à l'écologie intégrale, c'est une vision complète qui intègre la question du corps. On fait quand même partie d'un écosystème. C'est aussi cette vision-là, l'écologie intégrale.
Alors, ne me demandez pas s'ils sont nombreux, les écolos intégraux, c'est impossible à chiffrer. Très catholique, mais pas que, c'est en tout cas ce qu'ils assurent. Le terme lui-même fait débat, associé parfois au conservatisme ou même à l'intégrisme. Delphine Bateau, ancienne ministre de l'écologie, qui ne s'affiche pas comme catholique, en a fait un livre qui vante, je cite, « l'harmonie avec l'ensemble du vivant pour pouvoir soulever les montagnes ». Les relations sociales sont au centre de l'écologie intégrale, on me l'a également expliqué.
Deux êtres humains qui vont être en conflit auront un impact à terme sur l'environnement.
Alors on espère donc que Booba et Carice aussi en prendront de la graine. Camille Passauvert à réécouter sur franceinter.fr. Vous qui nous écoutez, est-ce qu'il vous arrive d'aller sur les réseaux sociaux pour vous informer sur l'état de la planète? Qu'est-ce que cela vous procure comme sensation, comme sentiment? Vos témoignages, vos réactions, on les attend au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. On y répondra avec nos deux invités, le youtubeur Max Bird et l'instagrammeuse Roxane Nonk. C'est tout un art, l'art de la défaite. Stéphane Batlick sur France Inter.
La côte en haut de la ville est avare en ombre l'été. C'est là rend indocile. Il faut une raison pour y aller. Raison d'aller là pour aller monter tout là-haut comme ça. Hein. Il marche comme l'on vole, l'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruissement l'affole, le fait se redécourager, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour à la tire, c'est ce que ce sont. C'est des vies aux volets bleus et entrouverts, aux vélos verts, à ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là. Ce demi-tour sur soi. La pente en haut de la ville est avare en ombre l'été. Cela rend indocile. Une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter tout là-haut comme ça. Il en redescend comme on sort d'une nuit blanche et agitée. Le moindre bruissement l'endort, le fait se remettre à rêver, revenir sur ses pas. Recommencer à regagner l'en bas. C'est que tout l'entour consumé par les sens et l'été son latin résumé à répéter tout bas. Voudrais-tu danser? Voudrais-tu danser? Voudrais-tu redanser avec moi ou pas? C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour sur soi.
Batlick, tout l'art de la défaite, qui s'est inspiré pour ce disque du poète et philosophe roumain Émile Cioran et dont Batlick a fait sienne cette parabole, rater sa vie, c'est accéder à la poésie sans le support du talent.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Élodie Font sur France Inter.
Le youtubeur Max Bird et l'instagrammeuse Roxane Nonc, derrière le compte Dear Lobbies, sont nos invités aujourd'hui. Toutes vos questions au 01 45 24 7000. Si j'arrive à donner le bon numéro, sur franceinter.fr, sur la page de La Terre au Carré, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Olivier, via Facebook, pour une première question. Comment vous assumez tous les deux le fait que plus on vous regarde et plus on consomme d'énergie et on rejette de gaz à effet de serre? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
Quel argument, mais infernal. En fait, les réseaux sociaux, les médias sont des manières de diffuser la parole. Si tous les écolos désertent ces endroits-là, c'est foutu. Voilà, fin du débat.
Je pense la même chose. Hein. Je suis totalement consciente de mon impact. Et on me le rappelle tous les jours, j'appelle ça la police des écolos. Il y a toujours des gens qui sont là pour te dire « Oui, mais alors t'as un téléphone portable. Oui, d'accord, mais tu m'envoies ce message avec quoi? Avec un téléphone aussi, donc toi aussi t'as un téléphone. » Et surtout, on est conscient de ça, puisqu'on connaît le sujet, mais je pense que l'impact qu'on a sur les gens via nos réseaux, en fait, mais compense totalement l'impact que nous...
Et surtout, il faut mener le combat là où il se trouve, quoi. On peut pas ne pas...
On a besoin de communiquer. La communication, c'est juste primordial vis-à-vis de ces enjeux. Donc, moi, j'assume.
Voilà. Dans une logique un peu similaire, Jean-Luc, sur Twitter, nous dit vous dites libre sur YouTube, mais vous êtes prisonnier de son propriétaire. Des réseaux comme PeerTube et PixelFed sont décentralisés et fédérés.
Ben, le jour où on pourra faire autant de vues et toucher autant d'audience sur ces réseaux-là, on ira dessus, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, diffuser des idées... Enfin, je veux dire, si tous les gens qui ont une conscience écolo et qui n'ont surtout pas envie d'être en contradiction sur quoi que ce soit décident de ne plus publier de vidéos et de ne plus toucher les gens, c'est foutu. C'est foutu. Donc, moi, je pense que c'est des faux arguments, souvent envoyés par des gens qui, eux-mêmes, culpabilisent de leur consommation et préfèrent pointer du doigt les consommations précisément de ceux qui ont un discours engagé. Je pense qu'il faut vraiment passer là-dessus, quoi, et s'intéresser sur ce qui est vraiment au cœur du sujet, qui n'est pas ça du tout.
Vous, c'est qui votre public? Vous vous adressez à qui?
Moi, je m'adresse à qui veut bien entendre ce que je dis. Mais après, dans les faits, la tranche d'âge qui me suit le plus, c'est la 25-34 ans, suivie de près par les plus jeunes depuis 18 ans, enfin, qui ont 18 ans. Mais j'ai aussi des messages de jeunes de 13 ans, hein, et c'est d'ailleurs ceux qui m'écrivent le plus et qui sont le plus angoissés, les très jeunes.
Ouais, carrément, c'est ça, c'est pareil, moi à la base je cible personne, je parle de ce dont j'ai envie de parler, donc voilà, et il se trouve que c'est plutôt le public qui décide, mais c'est effectivement plus un public jeune et donc concerné par ces questions.
Et moi j'ai 91% de femmes, donc j'appelle vraiment les hommes à suivre ces enjeux, je sais pas pourquoi ils sont si peu présents, pour toi.
Non, moi c'est kiff-kiff, moi, c'est, ouais. mais effectivement je suis surpris que ce soit aussi...
Alors que c'est complet, enfin il n'y a pas de genre sur ma page.
Ouais, c'est peut-être lié au fait que Instagram, et quand on suit, les nanas suivent des nanas sur Instagram, il y a peut-être un côté...
Oui, mais à la limite on vous voit pas beaucoup.
Non,
hein,
on me voit pas, à part
sur,
en story, on voit pas,
oui, mais
juste des contenus.
En feuilleton, donc je rappelle pour ceux qui connaissent pas Instagram, les stories ce sont vraiment des feuilletons que les gens publient au quotidien. Est-ce que pour tous les deux, pour la génération que vous incarnez, les moins de 35 ans on va dire, hein, pour être large, et parce que je fête mes 34 ans aujourd'hui,
c'est ça,
donc,
ça permet d'être dans la...
mon anniversaire,
donc j'ai encore un peu envie de me sentir jeune, merci. Est-ce que finalement pour cette génération, ne pas être écolo, ça va devenir, ou c'est déjà, un peu ringard?
C'est même pas ringard, ouais. C'est la honte, en fait.
Et c'est dangereux.
C'est dangereux. C'est la honte, hein. C'est comme, ouais. On voit de plus en plus de gens avoir la honte de prendre l'avion. Enfin, tout ce qui était, mais ça c'est génial parce que la mode change. Tout ce qui était un petit peu, enfin, tout ce avec quoi les gens se la racontaient avant, c'est-à-dire avoir une belle voiture, surconsommer, etc.
Exactement.
Tout ça c'est en train de changer. Et je me rends compte que petit à petit, ces personnes-là doivent se justifier. Après, il y en a qui sont totalement inconscients de ce qu'ils font et continuent de faire des stories dans des avions, en première classe, en étant très contents. Mais ça change.
Ça change.
Ça change beaucoup. Donc, ne pas être écolo, ça devient très problématique. Et pour les principaux intéressés qui ne sont pas dans le déni, ça devient honteux.
D'ailleurs, dans une de vos fictions, Roxane, donc, de dire Louise, ouais. dans une de vos fictions qui se déroule un 24 décembre, mm-hmm. mais dans je ne sais combien d'années, en 2047, vous les connaissez par cœur, ouais. Vous parlez d'un repas de famille, ouais. et justement, qu'il y a un gros malaise à parler aux gens qui ont notre âge aujourd'hui, ouais. et qui n'ont rien fait, puisque en 2047... on est en plein dans l'apocalypse.
Alors, c'est pas forcément l'apocalypse. Et d'ailleurs, dans cette histoire, ça se passe plutôt bien. Parce que c'est un monde à moitié effondré ou pas effondré. C'est simplement que ça a changé par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Mais effectivement, il y a des conflits de
génération. Il n'y a plus de transport, en tout cas. Il y a
toujours des trains. Il n'y a plus de voitures. Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver. De toutes les manières, il n'y aura plus de voitures thermiques. Enfin, pour que tout aille bien au niveau pollution de l'air et santé publique, il faudrait qu'il n'y ait plus de voitures qui sortent des usines à partir de 2028. C'est Greenpeace qui le préconise quand même.
Entre autres,
en sachant que les voitures électriques sont aussi un problème. Mais là, dans cette histoire, il y a toujours des trains, il y a des vélos carénés. Donc en fait, on a mis des habitacles sur les vélos et il y a des compagnies de taxi-vélos, etc. Les routes ont été réaménagées avec plus de voies. Tout a changé. Mais effectivement, il y a des conflits générationnels parce qu'en fait, les enfants de cette époque disent à leurs parents qu'ils savaient, mais qu'ils n'ont rien fait. Et c'est ça, c'est ce pourquoi je travaille sur le cerveau et que j'analyse, je fais de l'introspection et que je fais des recherches sur le cerveau, c'est parce que je me dis, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer?
Le striatum.
Mais oui, mais c'est...
Mais ce qui est intéressant, c'est que sur un des besoins fondamentaux, il y a le fait de la reconnaissance sociale, et c'est là-dessus qu'on peut agir, effectivement, parce qu'on continue à avoir des consommations, on va dire, irresponsables, mais si les gens déjà arrêtent de se pavaner, parce qu'ils ont peur justement d'être stigmatisés, c'est déjà une avancée, quoi.
Mais je rêve du monde où les gens qui ont des SUV auront honte.
Ouais, mais on y arrive. En tout cas, déjà la honte de se pavaner avec arrive.
Marie, qui nous écrit par mail, vous avez vraiment l'impression que ça change. Il y a beaucoup plus de non-écolos qui se moquent des autres que de personnes qui se bougent vraiment pour que ça change.
Je suis pas d'accord.
La tendance, en tout cas au niveau de la prise de conscience, elle est indiscutable. Maintenant, effectivement, est-ce que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé et est-ce que les comportements vont pour le mieux? C'est déjà beaucoup plus flou, effectivement.
On disait tout à l'heure, on en parlait il y a une dizaine de minutes, on parlait des marques et on disait que la vulgarisation écolo pouvait aussi attirer le marketing. Est-ce que vous êtes sollicités tous les deux par les marques?
Ben moi, je refuse tous les partenariats et je m'assois sur une somme considérable de pognon très régulièrement. Les gens ne le savent pas beaucoup parce que j'en parle pas trop. Mais avec mon nombre d'abonnés, je crois que je suis le youtubeur qui gagne le moins et de très, 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 très loin.
Quand on parle de somme considérable, on parle de 5 chiffres?
Ouais, c'est-à-dire que je suis effectivement approché par des marques. Et pour tout vous dire, je refuse tout en bloc, pas parce que... Je suis tétanisé à l'idée de faire de la pub, alors que je sais qu'il existe des partenariats éthiques et qu'il existe des manières de quand même faire fructifier, on va dire, mon influence et mon nombre d'abonnés, tout en véhiculant des messages
640
positifs.
640 000 personnes, hein,
je le
rappelle.
Mais je ne le fais pas parce que j'ai une sorte de tétanisme un peu idiot. Et je ne lance pas du tout ce message aux gens qui sont influenceurs ou youtubeurs en disant « faites surtout pas de partenariat avec qui que ce soit, mais il faut juste très bien se renseigner, c'est vrai que je ne prends pas le temps de le faire ».
Eh ben, on pourra en parler si tu veux, parce que moi j'ai fondé une agence de marketing.
Ça fait très bien. On sent la communauté.
Je savais que justement j'aurais Roxane à côté qui, elle, justement, est beaucoup plus calée que moi sur les partenariats éthiques.
Ouais, alors ouais, j'ai fondé cette agence en janvier, en même temps que mon média, parce que je me suis rendu compte que les influenceurs green avaient du mal à trouver leur place en fait dans ce monde du marketing d'influence, et que les ONG et les marques ne savaient pas communiquer avec les influenceurs.
Avaient du mal, pour qu'on comprenne. Parce que elles se sentent un peu coupables d'accepter quelque chose de marque.
De qui? Les influenceurs
écolo.
Alors c'est déjà beaucoup souffrent du syndrome de l'imposteur et travaillent gratuitement alors que écrire des articles, produire du contenu, ben ça voilà. Prend du temps, ça demande du matériel.
Parce que je pense que je vous coupe, mais parce que je pense que certains qui nous écoutent ne le savent pas, mais en l'occurrence être instagrammeur, c'est devenu un métier comme youtubeur d'ailleurs.
Exactement.
Alors il y a celles et ceux qui ne font que ou quasiment que des partenariats mainstream. Et il y a les gens qui sont dans notre catégorie, qui produisent du contenu informatif, qui demandent de la recherche, qui demandent du matériel, etc. Et là, c'est effectivement un travail qui se rapproche du journalisme, en fait.
Ouais, ça nous coûte plus cher et c'est moins bien payé.
Oui, c'est vraiment beaucoup de frais.
Pour terminer, Max Bird, dans l'encyclospectacle, vous imitez de nombreuses espèces et notamment certaines espèces de dinosaures.
Carrément, oui.
Est-ce qu'on peut remonter le temps avec vous?
Mais bien sûr, c'est pas très très radiophonique, hein, mais on va dire que voilà, c'est un dinosaure oiseau du nom de Velociraptor que vous connaissez tous.
Là, vous le voyez pas, mais il est en train d'imiter.
Voilà. Et je le fais mieux que l'humain, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ma démarche d'humain est moins maîtrisée.
Max Bird, youtubeur et l'instagrammeuse Roxane Nonk, qui était derrière le compte, qui est toujours d'ailleurs derrière le compte Dire Lobbies, étaient nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup.
Mais merci beaucoup.
Tous les deux. Juste après les infos, deuxième épisode de notre feuilleton de la semaine, nous suivons une famille zéro déchet.
Inter, la Terre au carré.
Ravie de passer ce 24 décembre en votre compagnie. Dans quelques instants, vos solutions pour la planète avec de l'architecture responsable et en fin d'émission, un classement de nos animaux préférés. Ou plutôt, notre invitée, Fabienne Delfour, nous expliquera que notre empathie envers les animaux est à géométrie variable. Mais pour le moment, un nouveau reportage de la série consacrée cette semaine au quotidien d'une famille zéro déchet. Céline, Grégory et leurs trois enfants. Après les galères de mise en route, les tensions familiales, la pratique. Mais comment on fait les courses quand on veut bannir les déchets? Reportage de Julie Pietri.
Comment acheter quand rien ou presque ne doit être emballé? Exit les grandes surfaces. Le plus souvent, le salut vient en fait des magasins bio ou des magasins de vrac. Ce jour-là, Céline a choisi plus simple, le marché, à côté de chez elle, toujours à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Eh ben moi, je dirais tomate mozza et salade de carottes.
Mmh. Avec des crevettes, et tu veux quoi à la place des crevettes?
Je sais pas, moi.
Bon, je vais chez Poissonnier. Julia, t'en veux des crevettes, toi?
Je sais rien.
Mais t'aimes ça? Les enfants? Il n'y a plus personne. Bon, j'ai ma liste d'idées, là.
Tout est très organisé.
J'essaye. Bah, les courses à peseurs déchets, ça nécessite d'anticiper un tout petit peu plus et pas de se dire chaque soir, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Et hop, je vais à la supérette du coin et j'achète n'importe quoi. C'est un peu fastidieux sur le moment d'organiser les menus, ça paraît un peu psychorigide. Mais après, dans la semaine, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, ça, c'est tous mes sacs à brac.
Donc, c'est les petits sacs en tissu?
Ouais, des sacs en tissu. Alors, soit que j'ai acheté, soit que j'ai fait pour les fruits et légumes. Voilà. Et puis là, donc, comme je vais passer chez le boucher poissonnier, bah, je vais prendre deux boîtes.
Donc, là, des boîtes en plastique plus ou moins grandes?
Oui. Donc là, en fait, en plus, je vais faire des provisions. Plutôt que d'acheter des trucs surgelés ou tout préparer au supermarché, en fait, je vais chez le boucher. Ils ont toujours des petits rayons traiteurs avec des feuilletés, des petites aiguillettes, des choses comme ça que je congèle et ça permet de faire des repas rapidement. Parce que zéro déchet, c'est pas tout faire soi-même non plus et passer des heures en cuisine. De toute manière, j'ai pas le temps.
Ça fait bizarre la première fois qu'on va voir un poissonnier, un boucher, qu'on lui demande « Tenez, mettez-moi cette pièce de viande dans une boîte. »
Oui, j'ai eu quelques moments de solitude. Hein. Le commerçant me regardait avec des yeux un peu ronds, disant « Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, avec ses boîtes ?» Il ne faut pas les braquer, il faut que les gens comprennent la démarche. Puis si, surtout, s'il y a 10 personnes qui attendent derrière, voilà, c'est un peu gênant de d'y passer 3 heures. J'y vais.
Bonjour, mesdames.
Bonjour. Vous avez les crevettes bio?
Combien en voulez-vous?
On va en prendre une vingtaine.
4, 6 et 2 vins. Ça fait 2 ans et demi que la dame elle vient et qu'elle présente son tupperware. Et quand on lui met un sac, elle nous fait rappeler des fois, elle nous reprend à l'ordre en nous disant non, je veux pas de sac.
Vous aviez réagi comment à l'époque?
J'étais surpris parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Ça vous pose problème?
Ça nous pose un peu de problème quand même. Oui, parce que quand on a des poissons à préparer, des dorades ou des barres et tout, c'est embêtant pour mettre dans des boîtes quoi. Mais la prochaine fois, achetez un tupperware un peu plus grand. Mais on fait plaisir aux clients, c'est eux qui choisissent. Donc voilà. Et vu les problèmes que le plastique emmène aussi, je crois que ça va venir par la suite comme ça. Hein. Donc voilà, vous savez tout.
Excusez-moi, madame.
Dites-moi.
Vous, madame, là, vous êtes aussi en train d'acheter du poisson?
Oui.
Est-ce que vous avez amené vos petites boîtes?
Non, j'avoue. J'essaie de recycler les sacs, voilà, pour les légumes. Et les boîtes, je ne suis pas encore mise. C'est bien d'avoir des contents. Merci beaucoup, pardon.
Vous pourriez vous lancer là-dedans?
Oui. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas à Paris, mais à côté de Paris. Je pense que c'est relativement facile ici. Je ne sais pas si c'est le cas en France, partout, en fait.
En fait, on se rend compte quand on commence à s'interroger sur cette démarche. J'ai l'impression de me réveiller. C'est comme si j'en étais un peu lobotomisée par cette histoire de j'achète, je consomme et je jette. Je sais pas si ça rend plus heureux, parce que quand on commence à s'intéresser à ça, ben forcément on est plus informé aussi de l'état du monde, etc. Et là, en fait, il y a le risque que ça devienne beaucoup plus flippant. Moi, avec mes petits emballages, en fait, je suis une toute petite goutte d'eau. Donc c'est ça qui est un peu flippant, de se dire, mais comment on va réussir à inverser la, ou à limiter les dégâts, ou inverser la vapeur. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer, parce que je pense que c'est quand même la meilleure voie. Et puis que je ne reviendrai jamais en arrière. Je ne reviendrai pas à une consommation tout azimut, à plein de déchets. Parce que c'est, je trouve que c'est plus serein, la vie comme ça. Plus libre, en fait.
Demain, visite guidée de la maison de Céline, une maison qui s'est, on s'en doute, pas mal transformée avec le zéro déchet. Nous aborderons aussi la question du coût, plus cher ou pas finalement. Rendez-vous demain, même heure.
France Inter, la Terre au carré, vos solutions pour la planète.
Vos solutions pour la planète, ce mardi, une nouvelle vie pour les matériaux. Ça sonne comme une résolution de début d'année. Bonjour Julien Chopin.
Bonjour.
Bienvenue dans la Terre au Carré. Vous êtes architecte du réemploi et associé fondateur de l'agence Encore Heureux Architecture à Paris. C'est quoi exactement un architecte du réemploi?
Alors, un architecte du réemploi, c'est peut-être un architecte qui s'intéresse à la question de la matière et qui un jour osait regarder dans les poubelles d'un chantier et qui s'est rendu compte qu'effectivement, peut-être les trois quarts des déchets qu'on produit en France sont des déchets issus du BTP, et dont 46 millions de tonnes, par exemple, en France pour les déchets du bâtiment. Donc effectivement, ça questionne beaucoup et ça demande des réponses. En tout cas, nous, on s'est inscrit avec d'autres pour essayer de trouver des réponses à ça.
Donc quand il y a une dizaine d'années, j'ai demandé à mon père de me ramener une bobine de chantier pour construire une table du plus bel effet dans mon salon. J'étais un peu une architecte du réemploi.
Oui, c'est ça. C'est le petit bout, c'est-à-dire de faire du mobilier à partir de déchets. Nous, on s'est rendu compte que dans le monde entier, il y a quantité d'architectes qui font des projets à partir de matériaux issus de réemploi. C'est-à-dire que donc c'est bien différent du recyclage. On garde la fonction et la forme des matériaux, mais on s'en resserre à nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est encore marginal, mais qui permet de résoudre, selon moi, la crise de la matière. Où d'un côté, on accumule des déchets, et puis de l'autre, il y a ces ressources qui s'épuisent. Donc c'est une façon de traiter différemment la matière.
Et vous utilisez n'importe quel matériau ?
Alors c'est principalement pour l'instant, dans les expériences qu'on a pu mener, des matériaux de seconde œuvre, donc plutôt des revêtements intérieurs, des portes, des radiateurs, des éléments sanitaires. Mais en tout cas, il y a des expériences où il y a des projets qui utilisent de la structure, des structures métalliques, des poutres. Ce qu'il faut aussi vraiment rappeler, c'est que l'histoire de la construction a toujours fonctionné comme ça. On a toujours déconstruit les bâtiments pour en reconstruire d'autres. Et tous les exemples des châteaux, des églises ou même des maisons domestiques sont historiquement souvent faits avec des matériaux de réemploi. Donc nous, on cherche juste à retrouver un peu de bon sens pour retrouver des pratiques qu'on a toujours fait dans le monde de la construction.
Et vous, Julien Chopin, vous les trouvez où, tous ces matériaux? C'est-à-dire que vous allez dans des décharges, vous allez dans des poubelles géantes, donc des décharges, vous allez où?
Alors, Alors non, c'est quand même maintenant de plus en plus, il y a des plateformes, soit des plateformes virtuelles en ligne qui permettent de mettre en lien l'offre et la demande, où on, comme l'équivalent de pour les objets, on a la même chose pour des matériaux d'occasion. Donc ça, c'est des choses qui, des plateformes en ligne qui se développent de plus en plus. Il y a aussi des ressourceries spécialisées sur les matériaux de réemploi qui aussi fleurissent un peu partout sur le territoire. Donc ça, c'est une première approche. Et sinon, il y a une autre grande approche qui est de, qui sont les déchets issus des chantiers de démolition. Donc quand on démolit un bâtiment, nous, on plaide pour qu'on fasse des diagnostics qu'on appelle diagnostics ressources, où on regarde tous les matériaux qu'on pourrait réemployer et ensuite on déconstruit proprement et on retransforme pour remettre en œuvre.
Surtout que vous dites que beaucoup de, des déchets du monde de la construction sont exportés dans d'autres pays de la planète, en Turquie par exemple. Et donc vous vous dites, pourquoi les envoyer loin alors que l'on peut s'en resservir ici ?
Alors ça c'est vrai. Alors les déchets du bâtiment, comme c'est des déchets souvent qui sont très lourds, ils voyagent pas non plus très loin. Là on parle plutôt des déchets électroniques notamment qui voyagent beaucoup. Mais c'est vrai que la question du traitement des déchets a aussi des impacts carbone notamment. Et cet impact carbone qui est très très important pour les architectes et pour le monde de la construction, il faut bien sûr l'envisager en amont dans la façon dont on transforme la matière. Dont on l'achemine sur le chantier, mais aussi en aval sur la façon dont on traite les déchets. Donc ça nous permet de travailler sur les deux bouts du problème.
Parmi les constructions de votre agence, Julien Chopin, il y a eu le pavillon circulaire, c'était lors de la COP21 sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, une construction éphémère. Est-ce que quelque part on peut voir en ce moment une de vos constructions ou pas encore ?
Alors si, on vient de... Donc là, effectivement, vous faisiez mention d'un bâtiment qui était à 80% construit en matériaux de réemploi, mais qui effectivement, a été éphémère. Là, on vient de terminer un projet qui s'appelle La Grande Halle à Colombelles, donc c'est près de Caen. Et là, on a intégré des matériaux de réemploi, donc des sanitaires, des éléments de charpente, des portes coupe-feu, dans un bâtiment qui est un tiers-lieu de l'économie circulaire. Donc un bâtiment qui va recevoir du public, c'est important pour nous parce que ça veut dire que c'est un bâtiment auquel on a dû se répondre à quantité de normes, les normes actuelles du monde de la construction, et on a réussi à démontrer que c'était possible avec tout un protocole mis en place avec les entreprises, avec la maîtrise d'ouvrage, avec les bureaux de contrôle. Oui. Pour arriver à démontrer que c'était possible et que c'était réel.
Merci beaucoup Julien Chopin. Et si vous aussi qui nous écoutez, vous êtes à l'origine d'une initiative, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur la page franceinter.fr. Dans un instant, notre invité découverte va nous parler de l'empathie que nous ressentons ou pas pour les animaux dans une étude du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris que vous pouvez lire sur franceinter.fr. Il apparaît que la tique est l'animal pour lequel nous éprouvons, nous les humains, le moins d'empathie. Moi, celle qui m'inspire le plus de haine, ce sont les punaises. Et vous, alors ?
Take me to my favorite show. Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist.
You step in there for me, now I'm yours to obtain. Now my fruits are the tanky. Knocked about by his poisonous charm.
Put a thunder through the window, I see rain. Water the corn, play with snakes in my man. Making you vulnerable, watch me drown in my pain. I feed you poison forever, my lady. Throw loads of God on you just to fall asleep. Pray for my sins, make me stronger while I'm weak. We die together, the prophecy complete, yeah. We can hardly touch the sky until we deceased, yeah. And if you pray for me, I know you play for keeps, yeah. Calling my name, calling my name. Taking the feeling of Prometheus ain't the way.
La chanteuse FKA Twigs, qui aime cultiver sa mélancolie en duo avec Future. Holy Terrain, juste avant The Holy Night ce soir.
La Terre au Carré. Élodie Font.
L'invité découverte de ce mardi 24 décembre. On peut difficilement être plus raccord avec la saison puisque notre invité vient de publier le livre « Que pensent les dindes de Noël ?» Oser se mettre à la place de l'animal aux éditions Tana. Bonjour Fabienne Delfour.
Bonjour.
Vu le titre, on pourrait croire à un manifeste vegan, mais c'est pas du tout le cas en fait.
Pas du tout, mais le sous-titre est là pour expliquer le titre et c'est bien la pensée de l'animal qui est au cœur du livre.
Vous êtes éthologue, vous étudiez le comportement des animaux en captivité, on en parlera dans quelques minutes, et à l'état sauvage, et vous vous êtes rendu compte que justement, eh bien on ne savait pas ce que pensaient les dindes de Noël, et en fait on ne sait pas ce que pensent les dindes d'à peu près tout.
C'est ça, tout à fait. En fait, la science est assez spéciste, c'est-à-dire elle va privilégier certaines espèces par rapport à d'autres, et on va privilégier souvent les espèces qui nous sont proches. Donc malheureusement, les dindes n'en font pas partie. Ce sont des animaux aussi qu'on consomme, et ne pas se questionner sur ce que pensent les animaux qu'on consomme, ça peut être aussi assez confortable, je pense.
Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites qu'on ne se questionne pas beaucoup sur ce que pensent et ressentent les cochons, les dindes, les pintades, et tout un tas d'animaux, en fait.
Oui. Mais je pense qu'on va poser des questions intelligentes à des animaux qu'on pense intelligents, et puis les autres, on va les laisser de côté. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est un peu moins vrai maintenant, parce que les éthologues aussi s'intéressent à ces animaux qu'on appelle les animaux de rente.
Et de rente?
Oui.
D'accord.
Eh oui, des animaux d'élevage qu'on va consommer. Effectivement, on va s'inquiéter quand même de savoir ce que pensent les cochons ou les veaux dans certaines conditions.
Aux animaux que l'on connaît, on attribue des pensées humaines. Le chien, par exemple, on lui attribue des comportements humains, des sentiments humains comme la colère, la tristesse, la jalousie. Et vous, vous dites, le problème, c'est que l'on ne s'intéresse pas aux animaux sur lesquels on ne projette pas certaines de nos attitudes. On préfère le panda au cafard, quoi.
Oui, alors il y a une étude toute récente qui a montré qu'en fait, notre empathie et notre compassion, elles suivaient l'évolution phylogénétique. Donc on va avoir des sentiments empathiques avec les grands singes, mais beaucoup moins avec les cafards, effectivement, oui. C'est notre manière humaine, en fait, de mettre du sens sur la pensée des animaux.
Et vous dites que c'est un problème dans votre livre. Vous dites que c'est un problème que notre empathie soit à géométrie variable.
Oui. Parce que du coup, on va déconsidérer certains animaux. On ne s'inquiète pas du tout de savoir quelles émotions ressentent les poissons. On sait que les animaux ressentent des émotions qui ne sont pas du tout des émotions humaines. Mais les émotions du rat sont différentes des émotions de la cigale, très certainement.
J'ai appris d'ailleurs que les rats riaient grâce
oui.
à vous.
Oui.
On apprend plein de choses dans votre livre, comme le fait que les dauphins peuvent se reconnaître dans le miroir aussi. Enfin, tout un tas comme ça d'évolutions. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans ces comportements animaux, en les étudiant?
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'étonne le plus, c'est ce panel d'émotions. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans un changement de paradigme scientifique et philosophique qui nous permet aussi de poser d'autres questions aux animaux et du coup de découvrir vraiment qui ils sont et de pouvoir vraiment, au jour d'aujourd'hui, essayer de prendre leur perspective.
Mais quand vous dites poser des questions aux animaux, comme on ne parle pas, à moins que vous le parliez leur langue, hein, je ne sais pas. Comment vous travaillez pour les comprendre, ces animaux?
Alors, l'éthologie est la science qui étudie les comportements des animaux, et on s'est souvent, trop souvent et trop longtemps, inspiré des travaux des primatologues qui étudiaient les grands singes, et on posait des questions aux grands singes qui étaient proches de questions qui étaient posées en psychologie humaine. Mais poser des questions de grands singes à des autres animaux, ça pose problème. Et typiquement, celui dont vous parliez, c'est l'expérience qui consiste à se reconnaître dans un miroir. Si vous avez un animal qui a un univers visuel qui est vraiment pauvre, la question elle est pas pertinente. Donc le fondement de l'éthologie est de trouver les bonnes questions à poser aux bons animaux, mais pas en termes humains, en termes animaux.
Et c'est ce qu'on appelle l'éthologie constructiviste, hein, c'est ça ?
Alors cette éthologie a la particularité de considérer l'animal comme un sujet à part entière. Oui. Donc un animal qui a des émotions, qui a des croyances, qui a des désirs et qui vit sa vie à la première personne. Et ça c'est très important quand on s'intéresse à son bien-être. Parce que non seulement le bien-être physique va être à considérer, mais aussi le bien-être psychologique.
Une autre question que vous abordez dans ce livre, « Que pensent les dindes de Noël ?» Qui ou que sommes-nous pour les animaux eux-mêmes?
Alors ça, c'est une question qui me taraude depuis très très longtemps, puisque voilà, j'ai étudié les animaux, mais je me suis toujours demandé, eux, qu'est-ce qu'ils pensaient de moi? Et je pense que de temps en temps, je suis quelqu'un qui peut être assez ludique, qui a des idées loufoques, et voilà, ça peut être attrayant pour eux. Et puis, dans la majorité du temps, peut-être que je suis ennuyeuse aussi, ou ils n'ont pas envie. Et donc, essayer aussi de comprendre qui on est pour les animaux, ça nous permet aussi de nous remettre nous-mêmes en question.
Et c'est quoi une idée loufoque que vous avez pu...
Créer des dispositifs expérimentaux, c'est toujours... pour certains animaux, ça peut être assez attirant et attrayant. Et puis, il y en a d'autres,
ça les ennuie en fait. C'est ça. Ils n'ont pas du tout envie de bouger, pas envie de changer. Vous êtes aussi responsable des programmes scientifiques de l'un des trois delphinariums de France, les aquariums des dauphins, des orques et autres cétacés. Et vous, vous travaillez pour celui du parc Astérix. À votre avis, que pensent les dauphins des parcs aquatiques?
Alors justement, ça fait 6 ans qu'on a mis en place des études qui visent à comprendre leurs pensées. Et on a monté des programmes d'études de bien-être animal. Donc on a fait par exemple récemment le test des biais cognitifs qui permettent de savoir si les dauphins voient le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et donc ça permet de savoir si on a des animaux optimistes ou pessimistes. On a des travaux sur les personnalités des animaux. Puisque si on a un animal qui voit la vie du bon côté et qui est plutôt curieux, joueur, il va pas du tout envisager l'environnement ou même ses relations sociales de la même manière qu'un individu qui est plutôt sur la réserve ou qui est plutôt dans l'appréhension des relations sociales.
Et donc, alors, ils sont plutôt optimistes ou...
Alors, il y a de tout. Mais en manière générale, ils sont optimistes. Et alors, la grosse découverte qui n'est pas une, mais plus on vieillit, et chez les dauphins, c'est la même chose, moins on est sociable.
Ah oui?
Voilà. Donc les dauphins jeunes sont curieux, joueurs, extravertis, et en vieillissant, ils sont plutôt sur la réserve, ils ont un refus ou un retrait des relations sociales.
Et ce sont des études que vous faites sur des dauphins en captivité, pas sur des dauphins à l'état sauvage?
Alors je fais les deux.
Les
deux.
Depuis
tout le temps, j'ai décidé de mener ces études en parallèle, aussi bien en milieu captif qu'en milieu naturel.
Et qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'il y a des différences très fortes entre les deux?
Non, il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, on va retrouver des personnalités différentes, on va retrouver aussi des émotions, des panels d'émotions qu'on peut retrouver aussi bien dans ces deux environnements. Donc ça permet aussi de créer des connaissances ou de construire des connaissances sur la nature des dauphins et aussi de le conjuguer dans ces environnements qui sont totalement différents.
On lit souvent que les animaux sont en souffrance quand ils sont en captivité, on parle souvent des zoos notamment, les parcs aquatiques c'est pareil. Comment améliorer leur bien-être et est-ce que c'est possible?
Alors voilà, là déjà c'est on part du postulat qu'ils sont en souffrance. Donc la première question c'est de vraiment...
Est-ce qu'ils sont en souffrance?
Voilà, c'est ça. Donc la démarche scientifique elle est là pour reposer ces questions-là et pour être beaucoup plus raisonnable. Je peux avoir des a priori, je peux avoir des opinions, mais au jour d'aujourd'hui je pense que quand on défend la condition animale, il faut dépasser ces opinions, il faut dépasser peut-être le militantisme aussi et poser les vraies questions à partir de faits. Et non pas d'un tox ou d'un fox.
Et les faits, ce sont par exemple les études que vous menez, c'est ça que
voilà.
Vous voulez dire?
L'idée, c'est vraiment de repartir à la base et de demander pour ces animaux que représente cette situation-là, sachant qu'à l'heure actuelle, ces animaux, le milieu originel de ces dauphins, ce sont les eaux, c'est pas l'océan. Donc ça remet aussi les choses en perspective.
Ce sont les eaux du parc?
Ils sont nés en captivité, ces
D'accord.
animaux-là. Donc ça remet aussi...
Ils ne connaissent pas autre chose, c'est ça que vous voulez dire?
Oui.
Donc, parler de leur souffrance, ça voudrait dire qu'on attribue un comportement humain du fait qu'ils auraient un manque de quelque chose alors qu'on ne sait pas s'ils ont ce manque, c'est
alors,
ça?
Alors, ça peut être ça, mais la souffrance, elle peut être totalement objectivée. Ce sont des animaux qui peuvent être apathiques, qui vont refuser de manger, qui vont refuser des interactions sociales. Donc, on peut objectiver la souffrance. Donc, au-delà de l'opinion personnelle que je peux avoir sur la souffrance des animaux, on peut vraiment l'objectiver. À partir de là, si effectivement l'état de bien-être de cet animal est déficient, je peux proposer quelque chose pour l'améliorer. Ça peut passer par un changement de partenaire social, ça peut passer par l'implémentation de jeux ou d'interactions spécifiques.
Et d'ailleurs, vous dites, vous écrivez qu'il faut faire attention aux images qui circulent sur Internet sur les animaux, en positif ou en négatif, parce que ce que l'on voit peut porter à confusion. Une toute petite dernière question, comment vous nous conseillez finalement d'interagir avec les animaux, Fabienne Elfoy ?
Souvent, je préconise de laisser l'animal venir à soi. Donc, c'est pas nous être à la recherche d'interaction, mais c'est l'animal qui doit déclencher la rencontre. Ici, c'est lui qui choisit la modalité, c'est lui qui va aussi maîtriser le fait de vouloir ou pas vouloir interagir avec vous. Et à ce moment-là, vous allez avoir la meilleure des interactions possibles.
C'est lui qui décide s'il y a un date entre,
c'est ça.
entre lui et nous. Que pensent les dindes de Noël ? Oser se mettre à la place de l'animal. Aux éditions Tana, c'est un livre simple à lire avec beaucoup d'exemples. Après, vous ne regarderez plus les dindes et les cafards de la même manière. Merci Fabienne Delfour, bonne fête.
Merci, bonne fête.
L'émission du 24 décembre se termine en même temps que votre calendrier de l'Avent. Si, je vous ai vu manger le dernier chocolat, le plus gros du calendrier. Merci à Denis Delbecq, à la rédaction en chef de l'émission, Clara Marlot, Chantal Lemontagnier et Sophie Vaux pour la préparation des dossiers, Anna Massardier pour les réseaux sociaux, Thierry Dupin pour la programmation musicale, La Terre au Carré à réécouter sur franceinter.fr. Bon réveillon à tous.